Bonjour, Don Nicolas Benedetto.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes le responsable du service Jeunes et Familles au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler du bienheureux Carlo Acutis qui sera canonisé le 7 septembre prochain à Rome. Vous allez nous parler d'une grande actualité, une heureuse actualité pour Lourdes et puis pour tous les auditeurs de la région qui nous écoutent et qui vont être intéressés par cela puisque bientôt, dans quelques jours, vous allez recevoir au village des jeunes dont vous avez la responsabilité les reliques de ce bienheureux Carlo Acutis. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais d'abord, on va peut-être rappeler un petit peu qui est ce Carlo Acutis qui fascine tant, notamment les jeunes.
Alors effectivement, c'est vraiment un saint qui fait l'unanimité. Les jeunes en particulier sont très marqués, mais en fait, tout le monde. Il touche vraiment toutes les générations. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller moi-même à Assise récemment et donc de pouvoir me recueillir devant son tombeau.
Qui est assez c'est devant spécial. Sa dépouille, puisqu'on
sa
le
dépouille,
voit.
Voilà, c'est un tombeau vitré, donc on peut voir son corps. Et donc, alors déjà, effectivement, de le voir en basket Nike avec un sweat à capuche, c'est assez marquant. C'est dit, voilà, son corps.
C'est comme Sainte Bernadette, mais pas dans la même tenue quand même.
Exactement, la tenue est un peu différente. Son corps est intact aussi, comme celui de Bernadette. Et il règne vraiment une atmosphère de paix et puis de prière. Vraiment, on se sent porté, voilà. Et c'est très marquant, tous les gens qui viennent dans cette église d'Assise.
Et ça attire quel public, en fait ?
Mais justement, tous les publics.
Donc des familles, mais pas seulement des familles.
Pas seulement.
Qu'est-ce qui fascine dans ce visage de Carlo ? Alors, son vrai visage que l'on peut voir, mais aussi dans son caractère, dans sa vie de foi. Qu'est-ce qui fait que ce jeune, il nous marque tant ? Il est décédé à l'âge de 15 ans, le 12 octobre 2006. Il était né le 3 mai 1991. Qu'est-ce qu'il a eu le temps de faire pour nous fasciner tant ?
Mais d'ailleurs, c'est assez exceptionnel tout ce qu'il a réussi à faire en quelques années. Et je pense que ce qui marque le plus les personnes, c'est sa profondeur spirituelle. C'était vraiment un jeune qui cherchait Dieu, qui cherchait Jésus de tout son cœur et dans les moyens que nous connaissons tous. Voilà. Donc apparemment, sa vie n'avait rien d'exceptionnel de l'extérieur.
C'est-à-dire qu'il ressemblait à tous les autres jeunes de son âge.
Il ressemblait à tous les autres jeunes de son âge. Il aimait le sport. Il était passionné d'informatique, ça on le sait, puisqu'il a même créé un site internet qui parle de tous les miracles eucharistiques, très très bien référencé, qui fonctionne encore aujourd'hui. Donc il était non seulement passionné, mais extrêmement doué aussi. Ouais. C'est un garçon qui était très intelligent, mais qui était très discret. D'ailleurs, le jour de ses obsèques, il y a eu plus de 3000 personnes qui sont venues. Et ses propres parents étaient très étonnés. Parce que c'était des gens qu'il ne connaissait pas. Il y avait des personnes de la rue, il y avait la concierge de l'immeuble, il y avait puis plein de gens.
C'est-à-dire qu'en si peu de temps, il a eu le temps de rayonner. Alors, s'il était assis, c'est sans doute qu'il s'est inspiré aussi de Saint François d'Assise, d'aller vraiment vers les autres comme ça, et en particulier vers les plus pauvres.
Effectivement, voilà. Mais c'était une charité vraiment extrêmement discrète et extrêmement quotidienne, en fait. Ouais. Voilà. Il avait une intensité de présence avec chaque personne qu'il rencontrait.
Ah ouais.
Alors, sa mère a beaucoup d'anecdotes passionnantes. Voilà, ils vont à la piscine ensemble, sortie familiale. Mais en fait, Carlo parle avec les maîtres nageurs. À un moment donné, il va derrière le bar pour aider à faire les cocktails, etc. Parce qu'il connaît tout le monde, mais il aime tout le monde. Tout le monde l'aime. Et voilà, quand il parle à quelqu'un, on dirait que Il est tellement présent à lui, il accueille cette personne telle qu'elle est.
Alors tout ça, ça lui vient de sa foi, mais peut-être aussi un peu de son éducation et certainement la manière dont ses parents lui ont appris à vivre. Est-ce que sa foi, justement, elle a été transmise par ses parents ? Vous me disiez en préparant cette émission que sa maman écrit dans un ouvrage que finalement, c'est presque Carlo qui les a évangélisés. Enfin, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais...
Alors effectivement, je pense que Carlo a quand même reçu énormément humainement. Voilà, c'était des parents aimants. Donc voilà, il a eu une enfance vraiment heureuse, aimante. Il a reçu beaucoup d'amour. Il a été mis en confiance dès le début de sa vie. Et puis, c'était des parents chrétiens. Donc, il y avait des valeurs chrétiennes, qui avaient une certaine foi aussi. Sa mère en particulier dit que voilà, elle a toujours eu la foi. Elle a toujours même eu un peu peut-être une mystique, une sensibilité particulière dans sa relation à Dieu. Mais c'était des parents qui pratiquaient très peu. Ils allaient à la messe très occasionnellement pour les grandes occasions, etc. Et donc, c'est vraiment, je pense, la foi et la pratique religieuse de Carlo qui lui a permis de déployer une telle charité, même si elle s'exprimait de manière extrêmement simple, voilà, dans l'humanité de tous les jours.
Parce que lui avait soif de l'Eucharistie, il avait soif de la présence de Dieu.
Une très grande soif, un très grand désir. D'ailleurs, dès son plus jeune âge, il a demandé à faire sa première communion. Il a obtenu une dispense pour pouvoir faire sa première communion plus tôt. Donc, il l'a fait à 7 ans.
À 7 ans. Voilà.
C'était le 16 juin 1998. Il a fait sa première communion. Et à partir de ce jour-là, d'ailleurs, il est allé ensuite à la messe. Il a assisté à la messe tous les jours de sa vie, jusqu'à sa mort.
Alors attendez, parce que vous nous parlez d'un jeune un jeune mineur, un jeune ado, donc qui va à l'école quand même, on imagine, qui fait du sport, qui passe du temps sur Internet, qui aime les jeux vidéo, qui aime rencontrer plein de monde dans la rue, qui fait un tas de choses et qui va à la messe tous les jours.
Oui, on se demande comment il arrive à faire tout ça, alors, justement. C'est passionnant pour nous, parce qu'on se dit, nous qui avons souvent des programmes très chargés, voilà, dans les familles, etc., on se dit, mais comment on peut trouver encore le temps de prier? Lui, il a vraiment mis Jésus à la première place. Il l'a toujours dit depuis son plus jeune âge. Voilà, c'est vraiment toute sa vie.
Être toujours uni à Jésus, tel est mon programme de vie,
voilà,
disait-il. C'est magnifique, ouais. Si jeune en plus. Oui. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ce jeune Carlo, alors ce qui est intéressant, c'est de voir son lien avec ce monde des écrans, les jeux vidéo. Il faisait aussi, je crois, beaucoup de vidéos, Internet. Il a créé son propre site, donc il faut quand même qu'il y passe du temps et tout ça. Aujourd'hui, c'est un sujet vraiment sensible qui inquiète les parents, qui inquiète les enseignants, qui tous les éducateurs sont soucieux de ce rapport des jeunes avec les écrans. Et puis là, on voit un jeune qu'on montre en exemple. Il n'y a pas de tabou pour lui, les écrans, c'est même peut-être un moyen pour lui d'évangéliser.
Absolument, il l'a fait, il a évangélisé avec vraiment un très grand rayonnement. Alors ce qui est aussi assez surprenant, c'est que c'était une époque où justement on ne se méfiait pas beaucoup. Ses propres parents n'y connaissaient pas grand-chose. Donc,
il y a 20 ans,
ils avaient des moyens financiers, donc ben, voilà, il avait un ordinateur, il avait tout ce qu'il fallait, mais sa mère n'était pas sur son dos, j'allais dire, pour lui dire, attention, est-ce que tu es sûr que tu vas sur des bons sites, etc. Voilà, par exemple, toutes ces questions,
livré à lui-même face aux écrans.
Il était livré à lui-même, alors avec quand même une présence familiale aimante. Donc, il avait reçu beaucoup dans sa vie, donc il avait aussi des armes, mais c'est surtout sa foi, je crois, ces armes qu'il a su utiliser justement pour lutter contre toutes les tentations d'Internet qu'on connaît aujourd'hui et tous les dégâts que ça peut faire.
Donc ça veut dire qu'il se mettait lui-même un cadre, des règles à respecter et qu'il savait les respecter.
Absolument. Et il en parlait aussi à ses parents. Et je crois que c'est là le secret. C'est qu'il avait aussi confiance dans ses parents. Et donc il leur disait, ben voilà, j'ai décidé d'utiliser mon ordinateur une heure par jour maximum. Voilà. Alors qu'il était en plus passionné. Donc il y aurait passé toutes ses nuits très facilement. Donc il fallait vraiment une très grande force de caractère, mais aussi il a su utiliser tous les moyens. Cette messe quotidienne, ça n'est pas un hasard. Je pense que s'il y allait, bien sûr, c'est son amour de Jésus, avant tout, pour lui-même, mais c'était aussi là où il trouvait l'inspiration, la force de tenir ses engagements.
Alors ce jeune Carlo, soudainement, le 2 octobre 2006, une maladie très violente se déclare, c'est la leucémie. Il va mourir 10 jours après. Dans ces 10 jours, la fin de sa vie, ça ressemble à quoi? Il a conscience qu'il va mourir? Comment ça se passe?
Absolument. Il l'a dit à sa mère, d'ailleurs. Voilà. Il a préparé sa mère, si on peut dire, parce que préparer en 10 jours, c'est pratiquement impossible. Donc, pour ses proches, ça a été vraiment...
Parce que c'était un jeune homme rayonnant, aimant et aimé, d'après ce que vous nous dites. Alors, en 10 jours, se préparer à son départ pour toujours, c'est...
Voilà, ça a été très difficile pour ses proches. Il a eu énormément aussi d'amis qui sont venus lui rendre visite. Voilà, les copains d'école, etc. Ouais. Et tout le monde a été très marqué par la foi avec laquelle il vivait cet événement. En plus, il a beaucoup souffert. Il a eu, dans ces 10 jours, c'était des grandes souffrances physiques.
Il a su offrir ses souffrances.
Et voilà, il disait qu'il offrait toutes ses souffrances, pour l'Église en particulier.
Voilà. Oui. Aujourd'hui, à Assise, on peut vénérer sa dépouille, puisqu'en 2018, sa tombe a été ouverte et son corps a été retrouvé intègre. Ça veut dire qu'en fait, le modèle, la vie de Carlo continue d'évangéliser et de rayonner même depuis cette dépouille-là.
Il y a sans cesse des personnes qui sont à venir pour lui, alors qu'en plus on est à Assise, on pourrait se dire, mais il y a Saint François d'Assise,
oui, avant tout, ça,
bien sûr. Il y a Sainte Claire d'Assise, il y a aussi la sœur de Claire, Agnès, aussi, qui est... Donc voilà, c'est une ville où il y a beaucoup de saints, et puis
et
il
puis y a
ce nouveau saint qui arrive, alors qu'en plus il n'est pas du tout d'Assise, hein, donc il a vécu à Milan.
C'est lui qui a voulu.
C'est lui qui a désiré que son corps soit voilà, à Assise.
Donc il pour ce lien, en raison de ce lien avec les pauvres.
Alors je pense qu'il s'est en lien en particulier avec, pour son amour de Saint François d'Assise,
oui.
Mais peut-être aussi que c'est une intuition spirituelle, parce que voilà, ça il l'a pas révélé, en tout cas pas à ma connaissance, mais voilà, peut-être que c'était un appel aussi. Que Dieu lui a donné. Il dit, je veux que ton corps soit à Assise, parce que y a beaucoup, beaucoup de pèlerins qui vont déjà là-bas, qui vont découvrir ce saint, qui ne le connaissaient pas forcément. Moi, c'était mon cas. J'avais entendu son nom, mais je ne m'intéressais pas à sa vie.
Et vous vous attendiez, quand vous avez découvert sa vie, quand vous avez découvert ce jeune en sweat et en basket Nike, vous vous attendiez à cela?
Alors justement, pas du tout, absolument pas. J'étais jeune prêtre, je ne m'intéressais pas plus que ça à lui. Je me disais, bon voilà, c'est bien, c'est un saint pour les jeunes, pour les adolescents, etc. Et j'ai découvert tout autre chose. Une très grande figure de l'Église, quelqu'un d'une immense profondeur. Et puis en découvrant aussi ses écrits, il a laissé beaucoup de notes alors sur son ordinateur. Voilà, il prenait des notes dès qu'il faisait des méditations. Il lisait des passages des conciles. Il lisait les pères de l'Église.
C'est incroyable quand même.
C'est extraordinaire. On se demande vraiment comment il a eu le temps de faire tout ça. Il avait vraiment une très grande profondeur.
C'est incroyable et en même temps, quelle leçon aussi de voir que ce n'était pas un électron libre. Ce souci d'être relié à l'Église, de s'imprégner des textes de l'Église, des textes des papes, enfin, c'est quand même, ça montre encore une fois sa maturité spirituelle et sa maturité humaine, mais ça montre, c'est aussi peut-être une leçon de se dire, on mène pas sa foi et on évangélise pas comme ça en étant un électron libre dans son coin, quoi.
Tout à fait, et je pense que ça, nous l'acquérons aussi, justement, lorsque nous cherchons véritablement le Christ, que faisons-nous? Nous lisons la Bible en particulier, voilà, c'est la parole de Dieu. Et dans la Bible, que découvrons-nous? Que Jésus parle tout le temps de son Père, que Jésus, avant tout, il est le Fils, et qu'il obéit à son Père, au commandement de son Père. Tout ce que veut le Père, je le fais. Et donc, petit à petit, en s'en imprégnant, on apprend à devenir nous-mêmes fils, enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, je pense que tout ce cheminement... Carlo a su le faire aussi.
Vous restez avec nous, Don Nicolas Benedetto. Dans quelques instants, nous vous retrouvons et puis vous allez nous parler de cette grande nouvelle pour Lourdes et puis pour bien au-delà de Lourdes, puisque les reliques de Carlo Acutis arrivent dans le village des jeunes à Lourdes dans quelques jours, mardi 15 juillet. On en reparle dans un instant.